BFM Bourse, le club de la bourse.
Tout à l'heure, d'ailleurs, on évoquait le potentiel technique des marchés avec Alexandre Tixier pour notre portefeuille trading. Ce portefeuille trading BFM Bourse qu'on vous propose régulièrement, il nous disait quels sont les prochains seuils techniques à la hausse, les valeurs aussi qui offrent du potentiel et les valeurs sur lesquelles il envoie des alertes aux abonnés du portefeuille BFM Bourse. Vous pouvez retrouver le replay de son intervention sur notre application BFM Business et puis vous abonner aussi en flashant, scannant le QR code qui, tout au long de l'après-midi, apparaît sur vos écrans. Ce portefeuille trading BFM Bourse. Alors, il y a l'analyse technique. Bien sûr, avec ce portefeuille trading, et puis l'analyse, l'interprétation fondamentale du monde dans lequel on est tous en train d'avancer. Ils vont nous apporter leur éclairage, leur vision spécifique. Jean-Edwin Réa pour Quadrille Capital. Bonsoir Jean-Edwin.
Bonsoir Guillaume.
Je crois que je l'ai bien prononcé cette fois. Quadrille
Bravo.
Capital. Bertrand Puif aussi nous accompagne en fil rouge ce soir. Rebonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Vous étiez avec nous pour le bullshitomètre dans la précédente demi-heure. Vous êtes gérant action chez Fidélité International. Évidemment, on parlera d'NVIDIA dans un instant. Je vous demande juste 3 minutes de patience. NVIDIA gagne 8% aujourd'hui, voilà, c'est dit. Mais je vous demande 3 minutes de patience pour connaître l'avis, l'analyse de nos experts et surtout les possibles alternatives à NVIDIA dans les portefeuilles boursiers. On vous demandera, à l'un et à l'autre, de nous dire dans les yeux, en toute sincérité, si l'avenir de l'intelligence artificielle en bourse pour celui qui n'y est pas encore investi, c'est NVIDIA ou s'il y a mieux à faire. Je vous poserai clairement la question et je vous demanderai aussi de regarder dans les yeux, les qualités et les défauts d'NVIDIA. Challenge relevé, pas de souci.
Ok. Challenge relevé.
Allez. Rendez-vous dans 3 minutes. D'abord, quand même, la macroéconomie, Bertrand. Aujourd'hui, c'est pas NVIDIA qui fait la tendance sur les indices, c'est la macroéconomie. C'est la revanche de la macroéconomie. On a les indicateurs américains, les PMI, qui sont à un plus haut de 2 ans. Malgré les efforts de la Fed, malgré les hausses de taux, les PMI américains reviennent sur des plus hauts d'avril 2022. C'est assez incroyable quand même.
Oui, et puis ça peut changer la donne, puisque le consensus avait commencé à anticiper, en tout cas les plus optimistes, une baisse de taux aux États-Unis à partir du mois de septembre, sur des indicateurs d'inflation qui étaient plutôt favorables il y a quelques semaines. Et donc là, pour le coup, effectivement, les PMI sont en train de relancer la spéculation sur le fait que cette probable baisse soit décalée à la fin de l'année, ou peut-être encore une fois l'année prochaine. Hein. Je veux dire, on voit même les statistiques en Europe, montrent que l'inflation, notamment au niveau salarial, est assez persistante et largement au-dessus des attentes des banquiers centraux. Hein, on est dans un environnement où c'est vrai que cette inflation aujourd'hui focalise l'attention des investisseurs et que pour continuer à avoir le marché monter sur des anticipations de baisse de taux. On a besoin de ces anticipations de baisse de taux. On a besoin que l'inflation montre des signaux très encourageants. Ce qui est pas forcément le cas. Il y a des statistiques qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Donc c'est pas assez clair encore.
Le patron Goldman Sachs hier a expliqué qu'il ne croyait plus à des baisses de taux en 2024. Ça avait déjà douché le marché. Et aujourd'hui, une stat qui va dans son sens, les PMI qui réaccélèrent à un plus haut de 2 ans aux États-Unis, Jean-Edwin.
Oui, je suis d'accord. Bon, on est à cheval entre le Goldilocks, le scénario ni trop chaud ni trop froid, et beaucoup de signaux de ralentissement quand même dans l'économie réelle. Et puis des paradoxes un peu surprenants qui sont soulignés par des économistes comme quoi, par exemple, la hausse des taux crée aussi sa propre inflation. Elle crée énormément de revenus sur les marges d'intérêt. Elle crée aussi un déplacement des logements de l'habitation, comment dire, de la propriété vers la location. Et en fait, les loyers sont une des plus grosses parts de la hausse du CPI, parce que les gens ne pouvant pas en fait s'acheter des maisons, ils se mettent à louer sur un stock qui est restreint. Donc il y a des paradoxes sur cette hausse de taux qui n'a pas forcément l'effet attendu. Et pendant ce temps-là, en fait, vous avez aussi un boom de CAPEX qui est stimulé par les gouvernements dépensent comme jamais, notamment aux États-Unis. Donc le Inflation Reduction Act, qui est en fait un énorme stimuli pour le rapatriement industriel, pour la souveraineté dans la clean tech, etc. Et puis le boom de l'IA qui, mine de rien, pour pas citer NVIDIA, c'est l'exemple parfait, mais il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans cette industrie aussi.
Oui, et du coup, on a ce 10 ans américain qui monte aujourd'hui, après le PMI, donc sur un plus haut de 2 ans aux États-Unis, ça personne n'avait vu venir, malgré les efforts de la Fed. Et donc le 10 ans américain remonte en ce moment à 4,5. Le marché anticipe désormais, un peu plus d'une baisse de taux de la Fed. On était sur 2 baisses de taux encore avant-hier, là on est à un peu plus d'une. Donc on sent que le marché hésite encore énormément sur la stratégie à venir de la Réserve fédérale américaine. On a un Nasdaq qui gagnait tout à l'heure 1%, il a divisé par 2 ses gains. Mais il reste en hausse le Nasdaq, et il est sur un plus haut historique aujourd'hui malgré tout. Grâce, c'est le moment d'en parler, c'est parti, c'est notre défi ce soir, ne pas parler d'NVIDIA, impossible. Donc grâce à NVIDIA, NVIDIA gagne en ce moment sur le marché américain 9%. Nvidia atomise les attentes. Ah oui. Incroyable. Chiffre d'affaires d'Nvidia, il a plus que triplé en un an. Les prévisions pour le deuxième trimestre, largement supérieures aux attentes. Incroyable Nvidia qui, aujourd'hui, en progressant 9%, gagne autant que la capitalisation d'Intel. Comme ça, paf, sur une seule séance. Nvidia a une capitalisation égale à 17 fois celle de Goldman Sachs. Waouh ! Et il y avait des attentes très très fortes, du coup. On se disait, il va falloir qu'il délivre vraiment largement, mais encore plus que ce qu'on pourrait imaginer au-dessus des attentes pour continuer de progresser. Alléluia ! C'est fait. Et le titre gagne donc 10%. Et pourtant, ça n'a pas d'impact sur les grands indices mondiaux cette fois-ci, contrairement à il y a 3 mois. Comment faut-il l'interpréter, Jean-Edwin ?
Bon, alors déjà, il y a eu un trou d'air sur Nvidia au mois d'avril. Ça s'est dégonflé de 20%. Donc il y a eu une certaine respiration. Et je pense que l'excès spéculatif qu'il y avait dans le titre jusqu'à la fin mars avait disparu. Ensuite, sur le plus court terme, il y avait un doute sur la possibilité qu'il y ait un trou d'air opérationnel dans l'activité entre Hopper et Blackwell. Donc Hopper, c'est le GPU d'aujourd'hui. Et ils ont introduit donc en mars un nouveau GPU qui est extrêmement plus performant. Et l'idée, c'était qu'éventuellement, les GAFA allaient peut-être attendre pendant 6 mois avant d'installer cette nouvelle puce. Et je dis en passant d'ailleurs que ce n'est pas une puce, c'est un système complet. On a bien plus qu'un GPU. On a un GPU, des CPU, on a une mémoire ultra rapide, on a des NVLink qui sont de la connectique ultra rapide. En fait, tout ça, c'est un serveur entier qui coûte $250,000. Donc, c'est assez compliqué de juste réduire Nvidia aux cartes graphiques qu'ils faisaient il y a 2 ans.
On est d'accord. Mais donc, Blackwell arrive, ce sera dans quelques mois, la commercialisation qui va démarrer. Et ça va changer. La question qu'on peut se poser, c'est la publication est énorme, les prévisions pour la suite d'Nvidia sont explosives. Est-ce que Blackwell, donc ces futurs systèmes qu'Nvidia va commencer à commercialiser à la fin de l'année, va lui permettre de maintenir la même avance sur ses concurrents ou quand même, malgré tout, et malgré l'arrivée de cette plateforme Blackwell, Nvidia va commencer à se faire rattraper, malgré Blackwell?
Moi, je ne pense pas qu'ils aient publié des résultats qui étaient incroyables par rapport aux attentes. Ils étaient en ligne avec les attentes de ce qu'on appelle le buy-side, des gérants. Le sell side, les brokers étaient un peu en dessous et ils ont publié 2 milliards au-dessus. C'est le même excédent de publication que les 2 trimestres précédents, mais sur une base plus grande. Non, en fait, le vrai truc qui plaît énormément aujourd'hui, c'est qu'en fait, Jensen Huang a dit à 3 mois près pour les opérateurs de data center, ça vaut la peine de se faire livrer tout de suite la technologie d'aujourd'hui. Ça vaut pas la peine d'attendre 6 mois, parce que vous allez vous faire rattraper éventuellement par la concurrence et en tout cas vous allez pas pouvoir développer vos LLM aussi vite.
Et il faut donc moins de trous à venir dans les commandes d'Nvidia que ce que le marché escomptait jusqu'ici.
A priori, ce qu'on voit surtout se dessiner là, c'est un lissage dans le temps.
D'accord.
Bon, ça c'est vraiment le court terme, mais le plus long terme, je pense qu'il y a, selon ces analystes, il y a à peu près 1000 milliards de bases installées de data center, et ce 1000 milliards va être 100% renouvelé autour d'un nouveau paradigme d'informatique. On passe du calcul par instruction au calcul par intuition, si je puis dire. Mais sans rentrer trop dans le détail, on redessine le data center. Et ce que fait Nvidia ici, c'est prélever, je pense, 20% de ce cycle de capex, et je pense qu'on
d'investissement, voilà.
Vous voyez, d'investissement, pardon. Et donc, nous, on a prévu à peu près 200 milliards de chiffre d'affaires pour Nvidia. C'était prévu pour 2027. Ça a été rapporté à 2026, et maintenant, on envisage 2025. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comprimé dans le temps. Je ne sais pas quel est le si on devait faire une DCF et une analyse un peu plus financière du modèle, où ça va se stabiliser. Mais la société prend le contrôle de l'écosystème. Et quand, par exemple, on a fait des comparaisons avec 2000, Nvidia, c'est bien plus que juste Cisco ou juste Intel. Ah, c'est
alors là,
Cisco,
vous provoquez Bertrand.
Plus Intel,
là. C'est avec Bertrand qui va
je
vous
répondre. Je sais, parce que je l'ai écouté dans la salle d'attente.
Il va vous répondre dans un instant. Pour lui, Nvidia, c'est Cisco, pas pour vous.
Plus, c'est Cisco, plus Microsoft, plus Intel, plus Sun Microsystems, une société qui n'existe même plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent le GPU, le CPU, les cartes réseau et le système d'exploitation. C'est-à-dire que le Windows de l'IA, c'est eux qui l'ont développé, ça s'appelle CUDA, et vous avez plus de 400 bibliothèques de code qui ne sont pas remplaçables. Ce que fait AMD, par exemple, sa puce qui a été lancée en décembre et qui, dès mars, était déjà obsolète, ce sont des puces qui sont compatibles avec les bibliothèques CUDA. Donc elles sont moins rapides à défaut de réécrire le code en fait dès que Nvidia a sorti sa nouvelle puce. Donc ils sont un peu coincés dans un phénomène de rattrapage.
D'accord.
Après j'entends bien que.
Non mais je vois, Bertrand n'est pas du tout convaincu par vos arguments. On va le faire réagir quand même dans un instant.
Et alors le dernier point juste quand même pour souligner, c'est que il y a un an, Nvidia avait 100% de ses clients, c'était pour simplifier les GAFA, ok, les hyperscalers, les méga data centers. Microsoft, Google, Amazon, etc. Aujourd'hui, ce n'était plus que 40. Les autres, c'était des entreprises et des fonds souverains, des projets souverains d'IA. Mmh. On en parle de plus en plus. On va atteindre les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les fonds souverains d'IA. Il y en a en France, il y en a en Arabie Saoudite, il y en a dans beaucoup de pays. Ça fait partie aussi de l'enjeu. Et comme vous vous souvenez, je pense que l'IA, c'est en fait une matière première.
Les usines, c'est une commodity pour vous. C'est une commodity.
Voilà, les usines à matière première que développe Nvidia avec Dell, avec ServiceNow, avec tous ses partenaires, ils vendent de l'IA en commo, en matière première, et ce n'est que le coût marginal de l'électricité qui va déterminer son prix.
Je vois Bertrand réagir. Il a l'air d'avoir de la peine pour vous, Bertrand, en vous écoutant. Pas du tout convaincu par vos arguments. Bertrand, Nvidia, c'est l'avenir de l'IA, et l'IA, c'est notre avenir à tous. Donc Nvidia est notre avenir à tous. Est-ce que vous achetez ce... je résume, je schématise un peu, alors, je confesse. Est-ce que vous achetez ce discours?
La World Company, le monopole mondial, c'est là où j'ai en fait un problème. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que c'est pas une belle société, qu'ils ont pas une avance technologique. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, ils ont 90% de part de marché, une marge nette à 50%. C'est quand même fantastique. Alors, certes, il y a dans la technologie des sociétés de taille beaucoup plus faible qui ont gardé cette avance pendant un certain temps. Donc, la question pour moi, c'est plutôt combien de temps ils vont garder leur avance. Mais il est évident qu'on va avoir une concurrence. Il va y avoir à un moment donné, alors je ne sais pas si ce sera dans le long côté, on parlait de Grok tout à l'heure, mais aussi il y a AMD et Intel qui, je veux dire, aujourd'hui, quel camouflet pour Intel de voir qu'en une séance, la hausse d'NVIDIA, c'est leur capitalisation boursière. Vous imaginez que tous les ingénieurs d'Intel, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est la revanche par rapport à NVIDIA. Alors encore une fois...
Non, c'est d'aller bosser chez demain. NVIDIA, c'est d'aller bosser chez NVIDIA.
Ou aller bosser chez NVIDIA peut-être. Après, il y a un moment donné aussi, il faut avoir en tête que... Quelle va être l'acceptation des politiques par rapport au fait qu'une société au niveau mondial a une telle emprise sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va pas avoir un démantèlement à un moment donné? Est-ce qu'on va pas avoir des choses comme ça?
Oui, mais là, c'est dans longtemps, quand même.
Voilà, c'est dans longtemps. Trump élu, je pense pas que ce soit dans très longtemps que ça arrive. Mais, bon, tout ça pour dire que, bon, aujourd'hui, on valorise cette société comme si son monopole allait, durer très longtemps. Voilà, plusieurs dizaines d'années. Ce que je vois aussi, c'est que, et c'est vrai que ça a été compliqué sur les derniers trimestres de pouvoir avoir une vision claire des profits, d'anticiper les profits d'Nvidia. Alors, peut-être qu'il y aura moins de volatilité, j'espère pour eux. Ce que je constate, c'est que il y a quand même un doublement des profits qui est attendu, sur les 12 prochains mois. Mmh. Donc, qui dit doublement, c'est quand même des chiffres importants. Donc,
pas pour eux.
Mais ce que je veux dire, s'ils font que 80% de hausse, vous pensez que le titre, il va faire quoi? Mais il va faire moins 20 ou moins 30? C'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur des valorisations aujourd'hui qui ne tolèrent plus des mauvaises nouvelles. Alors tant qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est très bien, parfait. Là, il y avait un petit peu de crainte, donc même s'ils sont en ligne, bon, il y a sans doute des rachats de short. Mais voilà, bon, je pense qu'on est quand même un peu sur la corde raide. Est-ce que c'est un titre, je ne sais pas, la question mérite aussi d'être posée, qui peut doubler encore sur les 18 prochains mois?
Je pense, oui. Après, Jean-Edouin. Je reconnais que c'est compliqué quand on parle de 2500 milliards de capi. Le sujet, malgré tout, c'est que...
Ils sont plus qu'à 15% de la capitalisation d'Apple, désormais, Nvidia.
Ouais,
ça approche.
Donc, ça prouve que c'est possible. Les dépenses d'investissement dans l'IA, les centres de données, les data centers, on passe de 200 milliards à 500 milliards dans 3 ans, en 2027. Donc, c'est plus qu'un doublement. Est-ce que pour Nvidia c'est un chiffre d'affaires qui va suivre, ou est-ce qu'ils vont prendre encore un peu plus de la valeur de ces investissements? C'est un débat, mais c'est vrai que Blackwell ça coûte 250 000 dollars et Hopper 100 ça coûtait 40 000. Donc ils étaient montés sur des CPU de Intel ou de AMD qu'on appelle des X86. De plus en plus on va les monter sur des puces qui sont ARM, qui coûtent beaucoup moins cher, consomme beaucoup moins d'électricité. Oui. Et on en a déjà parlé. Moi, je pense que le vrai goulot d'étranglement de l'IA, c'est l'électricité, c'est l'énergie, en fait. Et c'est là où le marché est peut-être pas conscient de ce qui pourrait représenter, en fait, un mur. C'est qu'un jour, une de ces GAFA dit « je stoppe parce que je n'arrive pas à connecter mon data center à la
On les voit de plus en plus installer leur data center près des centrales nucléaires, par exemple.
Voilà, Amazon a fait un énorme deal avec un opérateur de centrales nucléaires. Microsoft a fait un deal carrément avec une société financière qui s'appelle Brookfield et qui investit dans de l'énergie renouvelable. Comme ça, ils se déploient. Mais c'est un deal à 10 milliards quand même, c'est pas rien. Et ça leur permet aussi de s'acheter des crédits verts pour ensuite déployer des centrales au gaz ou des centrales non renouvelables.
Oui. L'arbitre de ce match entre vous, messieurs, on rappelle, on a un pro IA Nvidia. Non, Nvidia n'est pas trop cher, c'est Jean-Edouard Drea, puis un autre, c'est vous, Bertrand, qui estime qu'on est déjà en zone de bulle là, sur l'intelligence artificielle et sur Nvidia. L'arbitre de ce match, c'est le marché. Nvidia accélère à la hausse. On est au plus haut du jour sur Nvidia à l'instant, plus 10,5%. Sky is the limit ou pas? Bon. Est-ce que néanmoins, et pour le coup, abonder dans le sens de Bertrand, est-ce que la grande limite d'Nvidia, c'est pas la géopolitique? Ils conçoivent des puces, mais ils les fabriquent pas. Et la plupart de leurs systèmes sont fabriqués à Taïwan.
C'est un énorme
sujet.
Donc,
une exposition géopolitique
énorme.
Mais
c'est pas un sujet qui est propre à... Le plus grand client de TSMC, c'est Apple. C'est 25% du chiffre d'affaires de TSMC. Le deuxième, c'est Nvidia à 17%. Le troisième, c'est AMD à 7. Et après, vous rentrez sur des plus petits acteurs comme Qualcomm ou Broadcom. Mais tout le monde fabrique, si vous voulez, des géométries avancées. Et there is nothing else. Il n'y a pas d'alternative. Après, la géopolitique, c'est pas facile à pondérer dans les portefeuilles. Donc, moi, je pense que sur une très longue période, peut-être dans 10 ans, on aura connu un rapatriement stratégique d'un certain nombre de ces technologies. Ça sera Intel, ça sera aussi TSMC qui construisent des énormes usines aujourd'hui en Arizona. Ils absorbent le doublement du coût de production que ça représente d'aller aux États-Unis par les subventions du IRA et du CHIPS Act de Biden. Et je pense que c'est jouable. Voilà, sauf guerre en Taïwan, mais je pense pas.
Bertrand, le mot de la fin là-dessus, puis après on appellera Étienne pour nous parler de la tendance qui se prépare, ce qui va à Paris. Je ne sais pas comment formuler cette phrase. Vous savez, parfois vous entamez des phrases, vous savez pas comment les finir, vous êtes dans la mauvaise direction et vous le savez, pourtant vous allez un peu plus loin encore dans l'impasse, puis là il y a un mur. Alors on va essayer de faire marche arrière. Étienne nous dira à quoi s'attendre pour la clôture dans un instant. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça, on va le rejoindre dans la tour next dans deux minutes. Mais le mot de la fin là-dessus, dans ce match autour d'Nvidia, Bertrand.
Si on replace le débat dans un contexte plus général qui suit de l'intelligence artificielle, la question ça va être celui de l'acceptation sociale. C'est-à-dire que là c'est l'euphorie, on a l'impression que ça va changer nos vies en positif. Je rappelle que Goldman Sachs a publié une étude il y a 3 mois en disant que d'ici 2030, l'intelligence artificielle allait supprimer au moins 30% des emplois non qualifiés. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ces gens-là. Je pense pas qu'ils soient très heureux de voir l'émergence de l'intelligence artificielle. Et puis d'autre part, ça a été très bien dit, on va vers des blackouts. On va vers des blackouts. Alors, quand en Californie, on aura encore plus de blackouts, est-ce qu'on va dire « Oh, c'est pas grave, on va pas se chauffer ce soir, mais parce que nos data centers sont à fond et on peut faire de l'intelligence artificielle ?» Voilà, donc je pense qu'il y a un niveau aussi de pondération. Et aujourd'hui, on est un petit peu trop dans l'euphorie.
C'est pour ça que je suis très bullish sur la clean tech. Parce que c'est en fait, c'est le renouveau de cette industrie qui est en déroute totale depuis 2 ans.
Donc, on rappelle, Nvidia ce soir est en progression de 10%, mais pas d'impact global sur les marchés mondiaux, contrairement à il y a 3 mois. Parce qu'aujourd'hui, on se demandait si Nvidia à lui seul pourrait peser autant sur les indices qu'un grand indicateur macroéconomique. On a la réponse aujourd'hui, c'est non. Un indicateur aujourd'hui fait la loi plus qu'Nvidia, c'est le PMI américain supérieur aux attentes. Ça douche un peu les marchés. Étienne Brack est avec nous depuis la tour Euronext. À 9 minutes de la clôture, malgré l'envolée d'Nvidia, le CAC 40 a du mal à progresser, Étienne.
En effet, ça tergiverse avec un CAC 40 qui est étal. Plus 0,07% à l'instant, légèrement sous les 8100 points à 8097 points. Vous avez le Dow Jones également qui a pris un petit peu un coup sur la tête suite à la publication de ses PMI. Et puis là, surtout Boeing qui est en train de perdre 6% avec le CFO, le directeur financier, qui s'attend à un cash flow négatif lors du trimestre en cours. Vous voyez, c'est quand même très compliqué pour la société. 6% de baisse pour ce titre Boeing. Donc forcément, ça pèse sur l'indice Dow Jones. Moins 0,7% alors que le Nasdaq gagne 0,7% grâce notamment à Nvidia. Un dernier mot sur les volumes d'échanges. marges qui sont une nouvelle fois très faibles ce soir. Depuis le début de la semaine, c'est sous les 3 milliards et ça devrait également être le cas ce soir. Seulement 1,3 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien, ce qui montre bien qu'il y a toujours assez peu d'initiatives en ce moment sur les marchés actions.
Et dans quelques minutes, Elon Musk en direct sur BFM Business, mesdames, messieurs. Il dira peut-être lui ce qu'il pense de la publication d'NVIDIA. D'ailleurs, peut-être s'a-t-il amené à en parler. Et ce sera en direct sur notre antenne dans BFM Bourse, puisqu'Elon Musk sera à Vivatech, dont BFM Business est partenaire. Ben voilà, comme on est partenaire, on vous en fait aussi profiter. C'est l'avantage. Et donc, vous pourrez écouter cette intervention en direct d'Elon Musk dans quelques minutes, juste après la clôture des